Que Dieu vous bénisse. Nous saluons aussi tous ceux qui sont en ligne. Que Dieu soit avec eux. Frère Benoît vous a transmis ses salutations. Il sera là, je crois, mardi. Voyage mardi, donc que Dieu le bénisse là où il est. Oui, Frère François, il quitte tout à l'heure pour arriver ici, je crois, demain, je crois. On vient de me passer un mot ici pour l'anniversaire de Fabrice en ce jour. Ah, le mot est là. Que Dieu te bénisse. Alors, ce qui est écrit, que l'on puisse dire merci, c'est ce que je lis, hein. Que l'on puisse dire merci au Seigneur pour le travail considérable qu'il fournit à la sonorisation et à la régie. Que Dieu le bénisse richement. Et comme cela a été demandé, nous allons prier. Prions tous ensemble. Bien-aimé Père, nous bénissons et louons ton nom, Père, pour cette grâce nous accorder, Père, de nous assembler et de recevoir toutes ces salutations qui nous viennent de loin. Merci, Père éternel, ô Dieu. Que tu bénisses, ô Dieu de miséricorde, tes enfants, Père éternel, ô Dieu. Et merci encore, Père, pour Fabrice. Oui, c'est vrai, Père, c'est un travail énorme. Et nous reconnaissons, Père, ô Dieu, l'amour qu'il a pour toi. Et merci pour lui, Père éternel. Aussi, tu connais ses besoins, ô Dieu, les plus profonds. Que tu l'enrichisses, que tu lui accordes ta grâce, Père éternel, et que sa vie soit un témoignage pour toi. Nous comptons sur toi, Père éternel, ô Dieu, que tu le soutiennes dans tous les aspects de sa vie. Merci maintenant, Père, ô Dieu, alors que, ô Dieu, nous allons ouvrir les Écritures. Combien nous avons besoin, Père, de ta sagesse, combien nous avons besoin de ta conduite. Ô Seigneur, envoie-nous ton esprit de révélation. Éclaire-nous, Père éternel, ô Dieu, car sans toi, nous ne pouvons rien faire, Père. Aussi, sois-nous favorable, Père, que ta présence soit effective au milieu de nous pour nous conduire, pour nous rendre attentifs, Père éternel, ô Dieu, à tout ce que toi, tu as à nous dire. Ô Seigneur, éloigne de nous toute parole d'homme, Père éternel, et que seule ta parole soit plantée dans les cœurs, car c'est la parole de la vie qui donne la vie. Nous comptons sur toi et nous bénissons ton nom dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On va ouvrir la Bible. On va lire dans 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. 1 jusqu'à 8. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Merci. L'apôtre Pierre cite ici deux types de serviteurs de Dieu dans son avertissement. Les apôtres et les prophètes. Car les gens de la maison sont édifiés par les fondements des apôtres et des prophètes. On va lire dans Éphésiens 2, 19. À partir de 19. Éphésiens 2. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Les apôtres et les prophètes ont posé les fondements, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est quoi les fondements? Les fondements, c'est la base, c'est les piliers, les principes, tout ce qui soutient une institution, une loi, un édifice. Quand on perd de vue la raison d'une chose, il faut revenir au fondement. La raison profonde pour laquelle cette chose existe. Si vous avez perdu la raison de votre foi, retournez au fondement des apôtres et des prophètes. Et il est dit, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est quoi la pierre angulaire? La pierre angulaire est la pierre placée à l'angle d'un bâtiment servant de base pour l'ensemble de la structure. Elle est généralement l'une des pierres les plus solides et les plus soigneusement travaillées, car elle détermine l'alignement et la stabilité de l'édifice. En tant que première pierre posée, elle est cruciale pour la solidité de la construction, répartissant le poids de manière équilibrée et assurant la durabilité de l'ensemble. C'est une pierre capitale, c'est la pierre maîtresse. Si vous voulez garder l'équilibre, la stabilité, la solidité, ayez Jésus comme pierre angulaire de votre vie. Si ce n'est pas le cas, l'apôtre avertit, il y aura des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur convoitise, disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Et ces paroles de moqueurs peuvent entamer votre foi, car vous pouvez effectivement constater que tout demeure comme avant. Les gens continuent de bâtir, de se multiplier, de s'amuser et de mourir. Et rien en réalité ne semble changer. Mais attention, ce n'est pas parce que rien ne semble se passer en apparence qu'il n'y a rien qui se passe dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu continue à se dérouler, que les hommes en soient conscients ou non. Nous pouvons lire dans Luc 17, Ce qui arriva du temps de Noé, donc verset 26, Luc 17, 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Aussi vrai que le déluge est arrivé, il y a un enlèvement qui aura lieu. Amen. Et ça, on peut le lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est cela notre attente, être toujours avec le Seigneur. Comme au temps de Noé, aujourd'hui encore, les hommes mangent, boivent, se marient, marient leurs enfants et la vie continue. Y a-t-il du mal à cela? Absolument pas. Mais si toute votre vie ne se résume qu'à ça, si c'est votre seul but, votre seule raison de vivre, alors c'est bien triste. Tu n'es pas dans ce cas différent de celui qui dit qu'après la mort, c'est fini, il n'y a plus rien. Le reste n'étant que de l'imagination et des fables pour endormir les gens. Il y en a un qui disait que la religion est l'opium du peuple. Pourtant, l'enlèvement est une réalité. Sachez qu'il y aura un enlèvement. Notre foi repose sur quelqu'un qui était mort, ressuscité et qui vit à jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, le sauveur de l'humanité. C'est en lui que notre espérance, notre raison de vie. L'apôtre nous dit que ces moqueurs veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Nous venons de lire, de même, il y aura également un jour de jugement et de la ruine des hommes impies, de tous ces moqueurs, car les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, et tous les germes du péché seront consumés. Dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux, il n'y aura ni péché, ni souffrance, ni deuil, ni mort. L'apôtre continue. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur ne tarde pas effectivement dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Dieu use de patience et il ne veut pas qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu aura tout fait pour vous sauver. À cause de sa patience, il dit, un jour est comme mille ans, et mille ans comme un jour. C'est difficile à comprendre. La manière dont tu comptes le temps n'est pas nécessairement la manière dont Dieu tient compte du temps. Quand toi tu dis, j'ai encore du temps, je viendrai à Dieu quand je serai vieux ou quand je me marierai, alors Dieu te dit, insensé. Tu ne sais pas que ton âme te sera redemandée cette nuit même. On peut lire dans Luc 12, à partir du verset 16. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, un bon projet. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il avait un projet pour construire des greniers plus grands, pour amasser toute sa récolte et assurer des jours heureux le restant de sa vie. Mais il ne savait pas que son temps était compté. Et toute cette richesse, qui va en prendre soin? S'attacher au matériel ne te sert à rien, car nu tu es venu au monde et en le quittant, tu n'emporteras rien. Tel que tu es venu, tu repartiras sans rien avec toi. Mais qui t'aidera à traverser de l'autre côté du temps? C'est la question que tu dois te poser. D'un côté, quand tu penses que tu as encore tout le temps devant toi, rien ne te le garantit, car ta vie ne t'appartient pas. Le propriétaire peut toujours la reprendre le jour même. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des projets, mais n'oublie pas que ta vie ne t'appartient pas. Elle est à Dieu qui peut la redemander quand il veut. Alors, mets-le en premier. De l'autre côté, celui qui est prêt et qui attend le Seigneur prie pour hâter son avènement. Il veut que Jésus-Christ revienne aujourd'hui. S'il ne vient pas aujourd'hui, il se dit il viendra demain. Et son cœur est en alerte permanente. Pendant que lui, il hâte la venue du Seigneur, le Seigneur use encore de patience pour celui qui n'est pas encore sauvé et qui doit se repentir. Il lui donne encore l'occasion d'être sauvé. Celui qui attend voit ses jours se défiler sans que le Seigneur ne revienne. Mais ne te décourage pas. Que ton zèle reste intact. Le temps peut te paraître long dans l'attente, mais continue à prier, à attendre au service du Seigneur et au service des autres, car il peut revenir à tout moment. On va lire dans Luc 2, à partir du verset 25. Luc 2, à partir du verset 25. Nous allons voir un peu de gens qui étaient dans l'attente. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Seigneur qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il les reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » La première chose qui est dit, Siméon était un homme juste et pieux qui attendait la délivrance d'Israël. Combien de temps il a attendu, on ne le sait pas. Probablement, il était âgé. Chaque jour, il était dans l'attente. Il était sûr de son coup, car il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Que cela ait fait 1 an, 5 ans ou 20 ans, voire même plus, il continuait d'attendre. S'il a peut-être raconté cela à quelques hommes de son entourage, et peut-être qu'il y a eu des moqueurs, ces moqueurs se sont levés et lui ont dit, « Tu es trop vieux, tu ne vois même plus bien, penses-tu que cette promesse est vraiment pour toi ?» Et certainement, nous pensons qu'il pouvait leur répondre, « Vieux ou pas vieux, j'attends, car ce que Dieu dit, il accomplit toujours. Je continuerai d'attendre, même à 1 seconde de ma mort. Je le verrai, car il me l'a dit. » Ne vous laissez pas intimider par les moqueurs. Soyez certains de votre Dieu. Siméon vint au temple poussé par le Saint-Esprit. Ne faites pas les choses par vous-même. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Mais le Saint-Esprit ne conduit pas n'importe qui. Siméon était juste et pieux. Attends-tu le Seigneur en étant juste et pieux? Alors le Saint-Esprit te conduira et tu verras le Seigneur. C'est ce genre d'hommes comme Siméon que Dieu aime, des gens résolus dans leurs décisions et qui ne changent pas d'avis parce que la situation leur est défavorable. Ils s'accrochent à ce que Dieu a dit. Ces problèmes des yeux à cause de la vieillesse pouvaient être une raison de dire « Je suis vieux, cette promesse n'est plus pour moi et mes jours s'évanouissent. » Mais non, sa conviction était plus forte que ses problèmes de vieillesse. Car ce qui l'empêchait de mourir, c'était justement la promesse qu'il attendait. Combien il devait hâter la venue du Seigneur. Lisons un deuxième exemple, c'est dans Luc 2, même chapitre, à partir du verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, il ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Anne était une veuve qui a vécu seulement 7 ans avec son mari depuis sa virginité et elle ne s'était plus remariée. A-t-elle eu des enfants? On n'en sait rien. Mais ce qu'on sait, c'est qu'après la mort de son mari, elle a consacré sa vie à Dieu. Elle n'a pas cherché à se remarier. Elle a trouvé son contentement en Dieu. Combien de fois a-t-elle peut-être subi des railleries des autres femmes? Elle est encore jeune. Parce qu'à ce moment-là, on se mariait très jeune. Elle est encore jeune et elle a encore la vie devant elle. Pourquoi ne veut-elle pas se remarier? Le mariage n'est pas la finalité de la vie. Mais être avec le Seigneur est plus important que le mariage pour elle. Cela ne la préoccupait pas. Elle passait son temps au temple, nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. À l'âge de 84 ans, elle arriva à l'improviste. C'est ça, survenir. Donc, elle arriva de manière inattendue au moment même où Siméon accueillait l'enfant Jésus, l'accomplissement de la promesse qu'il attendait depuis longtemps. Elle aussi vit la consolation d'Israël, la délivrance de Jérusalem. Elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jésus. Pardon, la délivrance de Jérusalem. Donc, nous voyons ici quelqu'un qui était consacré. Et parce qu'il était consacré, il vivait pour Dieu, il a vu le salut d'Israël. Ça paye d'être consacré pour le Seigneur. Elle a vécu 7 ans mariée depuis sa virginité. Elle avait maintenant l'âge de 84 ans. 84 moins 7, ça fait 77. Et si on voit... Donc, elle a vécu 7 ans avec son mari et elle avait 77 ans après la mort de son mari. Donc, 7 plus 77, ça fait 7. Ça, c'est 1, 2, 3. On a 3, c'est le chiffre de la perfection. Et 7 est le chiffre de l'accomplissement, de l'achèvement, du repos. 7 jours de la semaine. Aussi, le nombre 777 parle ou évoque quelque chose de parfaitement accompli. C'est comme si sa vie proclamait par la venue du Messie, tout est accompli. Elle a vu à l'âge de 84 ans, 7 plus 77, l'homme parfait, Jésus-Christ, le Fils de l'homme. L'homme parfait, pourquoi? Parce que Jésus-Christ était parfait dans son corps, parfait dans son âme, est parfait dans son esprit. Jésus-Christ est parfait en tout, en grâce, en sagesse, en intelligence. C'est Dieu fait homme. Quelle grâce incomparable elle a eue. Et sans doute, c'était l'objet de ses prières, voir de ses propres yeux celui dont les prophètes ont parlé. C'est lui qui devait venir délivrer Israël de ses ennemis et de ses péchés. Une femme consacrée. Sa vie en était le témoignage vivant. Consacrer sa vie au Seigneur et le servir finit toujours par porter des fruits. Que d'années d'attente avant la venue du Seigneur. Durant ces temps, ta foi sera mise à rude épreuve. Vous qui attendez depuis longtemps l'accomplissement de la promesse que Dieu vous a faite, ne perdez pas courage. Ne désespérez pas de la promesse. Dieu reste souverain et il contrôle toutes choses. Vos murmures et vos plaintes ne changeront rien, mais ayez une confiance totale en Dieu, car ce qu'il promet, il l'accomplit toujours. Voyons encore un autre exemple de quelqu'un qui avait la foi que ce que Dieu promet, il l'accomplit toujours. Caleb réclame son héritage après le partage du pays. Allons dans Josué 14, à partir du verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien, lui dit « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays. » Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans les déserts. Et maintenant voici, je suis âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirja Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Il était un peu comme Goliath, lui. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Alors qu'ils étaient partis explorer le pays promis, tous les espions, excepté Josué et Caleb, ont découragé le peuple. Mais Caleb, à cause de la position qu'il a prise et de sa foi en ses dieux, qui avait dit à Moïse que la terre promise leur était donnée en héritage, Moïse lui a promis que la terre qu'il avait foulée lui appartiendrait à lui et à ses enfants, car il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel. Suivre la voie de l'Éternel est une grande bénédiction. Dieu n'oublie pas, ou Dieu n'oublia point sa foi. 45 ans après, Caleb réclama sa terre. Il avait maintenant 85 ans. Et il avait encore la force d'aller combattre, car il s'y trouvait les Anakim et des villes grandes et fortifiées. Et particulièrement Hébron, c'est la portion de terre qui lui a été échue en héritage. Sa foi est restée intacte et autant sa détermination. Peu lui importer son âge, Dieu l'a dit. L'âge ne doit pas t'empêcher de réclamer ta bénédiction ou ta guérison. C'est ta foi qui est déterminante. La promesse de Dieu reste valable à n'importe quel âge. Et tu feras bénéficier l'accomplissement de ces promesses à tes enfants. Pour terminer, la Bible parle déjà de l'enlèvement depuis les temps anciens et des exemples de gens qui ont été enlevés. On va aller dans Genèse. Genèse 5, verset 24. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Pourquoi Enoch fut enlevé? C'est parce qu'il marcha avec Dieu. Est-ce que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Cela signifie qu'Enoch marchait selon la volonté de Dieu et qu'il était agréable à Dieu. Enoch avait 365 ans lorsqu'il fut enlevé. C'est un nombre assez particulier, 365. Nous savons qu'une année fait 365 jours. Et une année correspond à un cycle de révolution de la Terre autour du Soleil. Donc, le nombre 365 nous donne une clé pour comprendre qu'Enoch est le type de Jésus-Christ qui, lui, va être enlevé plus tard après sa mort et sa résurrection. Puisqu'il s'agit de l'année où on peut dire que c'est le soleil qui règle tout ça. C'est lui qui est l'astre brillant dont il est parlé dans Genèse. Donc, l'entité centrale est le soleil. Et nous savons que Jésus-Christ est le soleil de justice, la lumière des nations. Le soleil a été créé pour présider les jours. Ce qui veut dire que Enoch a joué le rôle de la lumière en son temps. Il était le soleil en son temps. Et c'est pourquoi il est le type de Jésus-Christ. Là, il s'agit du calendrier solaire. Mais il y a un autre calendrier qui est le calendrier lunaire. Ce calendrier est réglé par les quatre phases de la Lune. Ces phases sont souvent comparées aux phases du cycle menstruel de la femme. Et nous savons que la Lune a été créée pour présider la nuit. Cela montre que c'est l'empreinte de Dieu dans sa création. On a déjà vu ça, que Dieu a mis son empreinte dans sa création en comparant la nature, en comparant l'homme. Vous pouvez voir que c'est Dieu qui l'a créé. Citons enfin le calendrier hébraïque utilisé dans le judaïsme pour déterminer les fêtes religieuses juives. Ce calendrier-là est un calendrier lunisolaire. Donc, on tient compte de la lune et du soleil. Nous voyons qu'avec Enoch, le secret, c'est marcher avec Dieu, être agréable à Dieu. Donc, nous avons vu avec Siméon, c'était un homme pieux et juste. Avec Anne, c'est quelqu'un de consacré. Avec Caleb, c'est la foi. Et avec Enoch, c'est marcher avec Dieu. C'est plusieurs façons d'approcher ou de marcher avec le Seigneur. Ensuite, il y a les temps d'Élie. Et Élie, c'est au temps d'Israël. On peut lire dans 2 Rois 2, verset 11. Non, commençons à 10. Élie dit, « Tu me demandes une chose difficile, mais si tu ne me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Qui est Élie? C'est un prophète. Dieu l'a puissamment utilisé par des miracles et des prodiges. Il a dénoncé avec force l'idolâtrie d'Israël. Et lorsque sa mission eut terminé, Dieu l'enleva simplement auprès de lui. Dieu fut tellement satisfait d'Élie que parmi les prophètes, nul ne lui est comparable, excepté Jésus-Christ. Et Dieu envoya même Jean-Baptiste avec l'esprit et la puissance d'Élie pour préparer la première venue de Jésus-Christ. Et on le sait, Élie est le type aussi de Jésus-Christ, tandis qu'Élisée est le type de l'épouse, le soleil et la lune. Donc, pour rappel, Enoch fut enlevé pendant la période pré-abrahamique. On avait vu ça la fois passée. Élie fut enlevé au temps du royaume d'Israël et Jésus-Christ, descendant de Juda, fut enlevé au ciel lors de la transition entre le Nouveau et l'Ancien, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Au moment même où Israël les rejetait et où Dieu ouvrait la porte aux nations pour se choisir une épouse. Tous ces exemples sont donnés pour montrer que l'enlèvement est une réalité. Parmi les nations, et c'est compris Israël, pendant les 2000 ans de la fin des temps, il y aura un enlèvement. C'est la période dans laquelle nous sommes. L'enlèvement d'un peuple mis à part, les rachetés de Jésus-Christ. Et donc, si l'enlèvement est une réalité pour Israël, il est tout autant une réalité pour les nations. Et il s'accomplira. Il n'y a point de doute là-dessus, comme le Seigneur lui-même l'affirme dans Jean 14. On va lire dans Jean 14, à partir du premier verset. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. L'enlèvement est une réalité. Enfin, Israël connaîtra encore l'enlèvement de deux témoins. On avait vu ça pendant la période de la tribulation de 7 ans, lorsque Dieu les ressuscitera et les fera monter au ciel sous les yeux de leurs ennemis et du monde entier. Mais cela ne nous concerne pas. Nous vous exhortons, frères et sœurs, à prendre cela au sérieux, car le temps des nations est compté. J'ai voulu parler de Trump et du pape Léon XIV, comme je vous l'avais dit, pour montrer qu'il n'y a vraiment plus de temps. Comment les prophéties bibliques s'accomplissent devant nous? Mais les choses ont été changées pour éveiller votre esprit à la réalité de l'enlèvement. Répentez-vous et convertissez-vous, car sans cette intimité avec Dieu, sans l'obéissance à sa parole, sans une vie de consécration et de service, vos allées et venues ne vous auraient servi à rien. N'oubliez pas, la porte de la grâce va bientôt se fermer. C'est le moment favorable. N'endurcissez pas vos cœurs. Ne dites pas comme les moqueurs, depuis qu'on nous parle de l'enlèvement, les choses sont restées les mêmes. Soyez cette habitation de Dieu en esprit, car un jour, la réalité, l'enlèvement sera une réalité. Et c'est pour très bientôt. Bénis soient ceux qui y prendront part. Que le Seigneur vous guide et vous bénisse. On va chanter le cantique « Amis, amis, nous attendons l'enlèvement ». Je ne sais pas quel est le numéro, je ne peux pas vérifier. Que Dieu vous bénisse encore.
Numéro 113, Phare de Bleu, première partie. Ne laissez pas les soucis de ce monde vous éloigner de Jésus-Christ. Ne laissez pas les angoisses de ce monde vous éloignez de la paix de Dieu. Ami, ami, oh ami, nous attendons l'enlèvement. Oh ami, 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 nous attendons l'enlèvement. Ne laissez pas les plaisirs de ce monde vous séparer de l'amour de Dieu. Ne laissez pas les convoitises de ce monde vous enlever la grâce de Dieu. Ami, ami, oh, nous attendons dans l'air. Oh, ami, ami. Il y aura des grincements de dents. est prêt, l'épouse est préparée. Mais pour nous attendre, oh, ami, ami, oui, ami, nous attendons l'enlèvement. Oh, ami, ami, oui, ami, nous attendons. Oh, le soleil se couche, il arrive à la fin de sa course, et je vois combien le temps est proche.
265, phare de verre.
C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. À l'ouest, le soleil se couche, il arrive à la fin de sa course, et je vois combien le temps est proche, où à l'ouest.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous te bénissons, Père éternel, mon Dieu, mon Roi, nous te louons pour ce qui nous a été partagé ce matin, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Père éternel, de ce que tu nous tiens en alerte, Seigneur, mon Dieu, mon Roi. De ce que tu nous enseignes, Père éternel, que tu nous préviens, Père, que le temps est proche, Père éternel. Tu nous donnes l'occasion, Seigneur, mon Dieu, de nous préparer, de nous tenir prêts, Seigneur, de remplir notre lampe d'huile, Père éternel, pour que nous ne soyons pas un jour surpris, Père, comme les vierges folles, Père, comme celles, Seigneur, mon Dieu, qui n'avaient pas pris le temps d'écouter les avertissements, Seigneur, mon Dieu, mon Roi. Seigneur, mon Dieu, mon Roi, nous voulons venir, Père éternel, dans cette maison, pas, Seigneur, mon Dieu, comme si c'était une habitude, pas comme si c'était pour passer le temps, pas pour suivre quelqu'un, Seigneur, mon Dieu, mon Roi, mais nous voulons venir ici, Seigneur, mon Dieu, pour nous préparer, Seigneur, mon Dieu, mon Roi, pour, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, que nous puissions être remplis du Saint-Esprit, Père. Seigneur, mon Dieu, vêtis d'un fin lin, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, en attente de ton retour, Seigneur, mon Dieu, mon Roi. Nous tenons prêts, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, persévérant dans la foi, combattant le bon combat, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, regardant à Christ toujours, Père éternel, mon Dieu. Père éternel, puisses-tu nous aider, Père. Puisses-tu nous fortifier. Puisses-tu nous soutenir, Père éternel. Parce que, Seigneur, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas, Père. Mais c'est par ta grâce que nous pouvons tout, Seigneur, mon Dieu. Accorde-nous, Seigneur, d'abandonner, Seigneur, mon Dieu, tous ceux qui nous tenaient liés à ce monde, Père. Tous ceux qui nous empêchaient de marcher avec toi. Tous ceux qui nous distrayaient, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant. Tous ceux qui nous décourageaient, Seigneur, mon Dieu. Accorde-nous, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, Père, d'être rempli du Saint-Esprit, mon Dieu, mon Roi. Oh, Seigneur, mon Dieu, pour pouvoir accomplir ta volonté, Seigneur, pour pouvoir nous tenir prêts, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant. Nous te faisons cette prière, Père, et te supplions, Père, alors que nous allons retourner chez nous, à la maison, Père éternel, oh, Seigneur, d'emporter avec nous cette lumière, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, pour éclairer les âmes enténébrées, Seigneur. Accorde-le-nous, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant. Seigneur, mon Dieu, si tu nous laisses encore le temps, Père, accorde-nous de nous retrouver, Seigneur, mon Dieu, lors des prochaines réunions, Père, pour te rendre gloire. Nous te confions toutes choses, Père, nos retours à la maison, Père, dans ton nom Tout-Puissant. Nous te l'avons ainsi demandé, Père éternel. Amen, Père. Que le Seigneur vous bénisse.